Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Je suis persuadé qu'il vous importe de connaître ce qui est faux et ce qui est vrai. Et je ne sais si les fausses doctrines religieuses sont également importantes pour vous. Je pense que oui, car si ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas maintenant à l'écoute de votre radio. Que peut-on faire pour confronter les fausses doctrines et les réfuter? Il faut d'abord réaliser qu'elles pullulent dans notre époque et qu'il y en est ainsi depuis très longtemps. Il faut ensuite étudier la Bible de manière à pouvoir faire la part entre la vérité et l'erreur. Enfin, il est essentiel de vouloir faire face et de démasquer les fausses doctrines spécifiques à notre génération. Dans sa parole, Dieu nous met amplement et fermement en garde contre ceux qui enseignent des choses contraires à sa volonté. Jésus déclare par exemple, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et l'apôtre Pierre nous avait dit en disant, « Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Jésus, quant à lui, nous exhorte en ces termes, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » La seule manière de mettre celui qui enseigne au pied du mur est d'utiliser la méthode de ces chrétiens de Béret, dont le livre des Actes parle dans son 17e chapitre. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est cela qu'il faut faire. Rien d'autre ne peut préserver la pureté de l'Église fondée par Jésus-Christ. Il est essentiel de s'interroger en matière de religion. Il faut faire face pour enfin confondre les fausses idées et les doctrines erronées en utilisant la Bible elle-même. Le seul moyen de combattre des fausses doctrines déterminées et de leur opposer tout simplement certaines vérités déterminées aussi qu'enseigne la parole de Dieu, c'est d'épuiser de l'esprit. Parler de la vérité avec amour, telle devrait être notre mission, notre but dans la vie. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens que nous devons tous devenir des adultes en matière de connaissance des Écritures, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses, par les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est en ayant l'amour de la vérité pour unique but que nous vous engageons à interroger votre Bible et à y découvrir par vous-même le merveilleux chemin que Dieu nous y trace et qui mène au salut éternel. Je crois que l'homme du XXe siècle perd trop souvent de vue que la vérité de Dieu a été entièrement révélée à l'humanité, tout entière. Son Fils nous dit en effet, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Voyez-vous, la vérité divine n'est ni subjective ni relative, tout au contraire. Elle est même fort objective. Elle s'adresse à tous. Il est possible de l'atteindre, oh oui. La parole de Dieu représente la seule vérité en matière de religion. Toute la vérité, et le fait que nous la rejetions, que nous l'acceptions, n'y change absolument rien. Les hommes pourront en dire ce qu'ils voudront, elle restera ce qu'elle a toujours été. Il n'existe en réalité que deux possibilités. Ou bien il est possible et nécessaire de connaître cette vérité, ou alors Jésus n'est qu'un menteur. Pourquoi ? Parce qu'il dit tout simplement, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. » La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole de Dieu selon laquelle seront jugés les hommes est verbalement inspirée du Saint-Esprit. On parle beaucoup de légendes ou de narrations, de l'inspiration de pensées ou d'idées, mais il ne s'agit pas là de ce que la Bible enseigne depuis des siècles et des siècles. Écoutez donc l'apôtre Pierre. Et sachez-vous tout d'abord, d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, dit-il. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De plus, l'apôtre Paul affirme avec fermeté, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. La Bible affirme avoir été inspirée mot par mot par l'Esprit Saint. Enseigner autre chose est tout simplement se rendre coupable de ce modernisme dont on peut chaque jour constater les terribles ravages et qui a notamment pour but de vouloir adapter la Bible à la philosophie humaine du moment. Ces spéculations toutes gratuites ne servent qu'à miner la foi dans les Écritures et faire croire à l'humanité que Dieu doit s'adapter à l'homme du XXe siècle. Cependant, il faut constater que la division des Écritures est souvent mal comprise. Et cela même chez ceux qui croient fermement à l'inspiration verbale de la Bible. Certains t'en font des gorges chaudes, en prétendant qu'il est virtuellement impossible de s'entendre et de comprendre la parole de Dieu de la même manière. Mais l'apôtre Paul déclare en parlant à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » En s'adressant aux Éphésiens, il dit également, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La Bible affirme donc que l'on peut la comprendre, mais que pour cela, il ne faut pas être inconsidéré. Si nous comprenons la Bible, nous devons la comprendre de la même manière. C'est d'ailleurs ce qui fait dire encore à Paul, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Nombreux sont ceux qui ne réalisent pas l'énorme différence qui existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils ne comprennent pas sous la juridiction de quelle alliance nous vivons aujourd'hui. Ils n'arrivent pas par conséquent à faire la distinction qui existe entre les deux. Ils divisent ou séparent les deux testaments d'une manière tout arbitraire. Et cela les amène évidemment à formuler des doctrines pour le moins fantaisistes. Écoutons ensemble ce que dit le Saint-Esprit sur ce point vital. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifie-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Oui, la Bible enseigne que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, mais que la loi a été donnée par Moïse. La loi de l'Ancien Testament a été accomplie par Christ et a par conséquent été abrogée. Elle ne dirige plus la vie de chacun en tant que législateur souverain, mais subsiste toutefois encore pour notre instruction, nous dit la Bible. L'ordre établi par la nouvelle alliance, l'Évangile de Christ, est entré selon le livre des Actes en vigueur 50 jours après la mort et la résurrection du Seigneur. C'est ce jour de la Pentecôte que la grâce et la vérité données par Jésus-Christ furent prêchées pour la première fois dans toute leur force salvatrice. L'ère du sang, des taureaux et des boucs est définitivement révolue et a fait place au sang précieux de Jésus qui seul peut laver nos péchés et nous amener à servir la cause du Dieu vivant. Nous vivons maintenant sur la nouvelle alliance, et c'est de ce côté-ci de la croix, dans les pages du Nouveau Testament, que se trouve l'entière et l'unique volonté de Dieu en ce qui nous concerne. Tous les livres de la Bible contiennent de grands et éternels principes, mais seul le message du Nouveau Testament renferme les ordres et les enseignements par lesquels Dieu a choisi de nous conduire à la vie éternelle grâce au sacrifice du Seigneur Jésus. C'est dans le livre aux Galates que se trouve le cœur même de la question du salut. C'est ici que l'apôtre Paul révèle le quoi, le comment, le où et le quand du salut. Écoutons-le. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. La Bible nous dit ce que nous devenons des fils de Dieu, membres de la famille de Dieu. Elle nous dit comment le devenir, par la foi. La Bible révèle où nous le sommes, en Christ, son corps, son Église. Et finalement, quand, c'est-à-dire lors de notre baptême, qui est le moment où nous revêtons Christ. Et je viens d'utiliser les mots de Dieu, et non les miens. La Bible enseigne clairement que nous ne sommes absolument pas sauvés par la foi seule, mais que nous ne devenons enfants de Dieu que lorsque notre foi nous pousse à être baptisés en Christ, en pleine obéissance à son évangile. Il y a des prédicateurs qui vous diront que votre salut repose entièrement sur la grâce et qu'aucune œuvre d'obéissance n'entre en ligne de compte dans la conversion à Christ. Cette fausse doctrine est fermement réfutée par de nombreux versets bibliques qui mettent précisément l'accent sur l'absolue nécessité d'une obéissance totale et inconditionnelle. Jésus dit par exemple, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Paul nous avertit également qu'il arrivera un jour où le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Il est horrifiant de constater que ce qu'enseignent beaucoup de prédicateurs modernes est diamétralement opposé au testament même, au message même du Nouveau Testament. Lorsque l'Église du Christ a été établie le jour de la Pentecôte, des milliers de gens ont crié « Pente frère, que ferons-nous ?» Et la Bible nous dit que Pierre leur répondit tout simplement « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Chers amis, est-ce là ce qu'on vous prêche ? Vous enseigne-t-on que l'homme perdu doit se repentir et être baptisé pour le pardon de ses péchés ? Honnêtement, le message de votre prédicateur est-il le même que celui que prêche Pierre en Actes, chapitre 2 ?
Alléluia, 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 alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous ? Chrétiens qui ne portent pas d'autres noms et ne sont attachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout du Pacte et du Nouveau Testament, notre unique chef Jésus-Christ, seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlerons de ce que la Bible dit et de nos silencieux à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous voulez entendre. Et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, CEDEX. Je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, CEDEX, France. Au revoir. À la semaine prochaine, même heure.